monnaie centrale et monnaie scripturale. Dans cette théorie des réserves fractionnaires, ce que l'on appelle multiplication de la monnaie correspond en réalité à la circulation d'un stock de monnaie émis par la banque centrale, les 100 euros initiaux, dont le passage est enregistré par les promesses, les montants inscrits sur les comptes en banque et les crédits faits par les banques de dépôt. Que pouvons-nous conclure de cet exemple? Principalement que la banque centrale contrôle tout ce qui se passe. En effet, les 100 euros ne peuvent pas être déposés et prêtés à l'infini parce que les banques sont obligées de constituer des réserves obligatoires, le fameux 1%. Ainsi, tant que le taux de réserve obligatoire n'est pas nul, la banque centrale peut prédire la manière dont la monnaie qu'elle injecte va être multipliée. Plus le taux est élevé, plus la circulation de la monnaie est entravée, moins l'effet de multiplication est important. À titre d'exemple, si un taux de réserve obligatoire de 1% permet une multiplication du montant initial par 100, 1 divisé par 0,01 égale 100, ça me fait plaisir, un taux de 5% réduit l'effet à une multiplication par 20. 1 divisé par 0,05 égale 20. Allez, j'arrête. La théorie des réserves fractionnaires nous explique donc qu'il y a deux types de monnaie. La monnaie centrale, personne ne s'est foulé sur ce coup-là, et la monnaie scripturale, les promesses faites par les banques, c'est-à-dire les montants inscrits sur les comptes en banque. La monnaie centrale est essentielle pour que le système fonctionne. C'est grâce à elle que la multiplication de la monnaie s'enclenche. Mais la monnaie effective, celle qui matérialise notre pouvoir d'achat, est la monnaie scripturale, les promesses faites par les banques. Le point le plus important, c'est que c'est bien la banque centrale qui, via des équations force à vente, décide du montant initial à injecter et donc contrôle la quantité totale de monnaie que nous pouvons utiliser dans le système. C'est la faute du système. En quoi cela est-il important que les agents économiques n'aient aucun contrôle sur la quantité de monnaie? Cela permet de conserver les modèles qui considèrent le système financier comme un simple intermédiaire. Puisque la banque centrale contrôle la quantité de monnaie et qu'elle n'est ni une entreprise qui cherche à maximiser ses bénéfices, ni un particulier qui vise la maximisation de son bien-être, ni un gouvernement dont l'objectif est la réélection, mais une institution indépendante dont l'objectif est la stabilité du niveau général des prix, nous y reviendrons, alors la quantité de monnaie ne dépend pas des agents économiques. Conclusion, on peut garder les anciens modèles. Une théorie confortable car conservatrice. Cette théorie est particulièrement attractive pour certains économistes car cela leur permet de continuer de modéliser un monde dans lequel la ressource monétaire représente une contrainte extérieure à l'activité économique. J'entends par contrainte extérieure, en réalité on dirait plutôt contrainte exogène pour avoir la classe, le fait que les agents économiques n'ont aucun contrôle sur la masse monétaire. Ce ne sont pas eux qui décident de la quantité de monnaie disponible. Il n'est pas question dans cette théorie que les banques puissent choisir de garder des réserves supérieures à 1%. Juste au cas où. Ou encore qu'elles ne puissent pas prêter à cause d'un manque de demande de crédit de la part des agents économiques. Tout est supposé se passer comme si banque de dépôt et emprunteur n'avaient aucune volonté propre et que tout ce petit monde multipliait gentiment la monnaie autant que possible, instantanément et systématiquement. Ainsi, la théorie des réserves fractionnaires est très proche de celle des intermédiaires. Dans les deux cas, les banques sont des entremetteurs et la quantité de monnaie ne dépend pas du bon vouloir des agents économiques. Cela permet de modéliser un marché de la monnaie qui, de la même manière que n'importe quel autre marché, s'autorégule en fonction de l'offre et de la demande. Pour que cela fonctionne, il faut une ressource disponible en quantité limitée, donc rare, ou du moins dont la quantité est indépendante du bon vouloir des agents économiques, et de la concurrence. Dans le cadre du marché de la monnaie, Les offreurs sont les épargnants qui ont accumulé des revenus. Les demandeurs sont tous les agents économiques qui en ont besoin, États, particuliers et entreprises. Et le prix de la monnaie est le taux d'intérêt qu'il faut payer lorsque l'on souscrit un prêt. Le mythe de la loi de l'offre et de la demande. Même si ce n'est pas réellement le propos de ce livre audio, je pense que le fameux compromis, les économistes parlent de prix d'équilibre, soi-disant permis par l'opposition des forces de l'offre et de la demande, se doit d'être gentiment débunké. En théorie, tout fonctionne merveilleusement. Les offreurs veulent faire monter le prix de la ressource qu'ils viennent de produire, mais parce qu'ils sont en compétition avec d'autres offreurs, ils doivent baisser leur prix pour être compétitifs. Les demandeurs, de leur côté, ne peuvent pas fabriquer ou faire apparaître la ressource dont ils ont besoin. La ressource est rare. Ils doivent donc se rendre sur le marché pour négocier avec les offreurs. Les demandeurs adoreraient contraindre les offreurs à faire diminuer le prix de la ressource dont ils ont besoin, mais parce qu'ils sont en compétition avec d'autres demandeurs, ils sont obligés d'accepter des prix plus élevés. L'équilibre entre les intérêts contraires des offreurs et des demandeurs, combiné à la concurrence et à la rareté de la ressource, permet d'aboutir à un compromis idéal. Le prix ne peut pas baisser davantage sans mettre les offreurs en faillite, mais il ne peut pas non plus monter davantage sans que les demandeurs se retirent du marché. Tout est parfait. Il n'y a pas besoin d'intervenir ou de réguler quoi que ce soit. Le marché est la réponse. Il permet de trouver l'unique juste prix qui satisfait le plus grand nombre. Parce que ce prix est unique et stable dans le temps, il correspond à un idéal. Si, sur chaque marché, il n'existe qu'un seul prix d'équilibre qui satisfait le plus grand nombre, alors atteindre ce prix permet aussi l'avènement d'une société juste où chacun est rémunéré à hauteur de sa contribution, telle qu'estimée par le plus grand nombre. Je prends pas mal de raccourcis, mais l'idée reste correcte. Sauf que le procédé que je viens de décrire correspond à un tâtonnement. Les offreurs et les demandeurs s'échangent des marchandises à des prix différents qui ne sont pas le prix d'équilibre, jusqu'à ce que celui-ci soit trouvé. Combien de temps cela prend-il? Et d'ailleurs, comment peut-on être sûr que l'on finit toujours par l'atteindre? Après tout, à partir du moment où une entreprise arrive à vendre des marchandises à un prix différent du prix d'équilibre, les revenus qu'elle génère ne sont pas justifiés. Ils sont soit inférieurs, soit supérieurs au fameux compromis idéal. Ainsi, la rémunération des employés et des actionnaires, qui dépend du prix de vente, n'est pas justifiée non plus. Cela signifie que le pouvoir d'achat non idéal de ces agents vient perturber la demande d'autres marchandises dont ils vont se porter acheteurs. Bref, les prix ont un impact sur l'ensemble du système. Comment s'assurer que toute cette mécanique pleine de boucles de rétroaction, en partant de prix qui ne sont pas ceux de l'équilibre, converge bien vers le compromis idéal? La réponse est donnée par un théorème mathématique appelé Sonnenschein-Mantel-Debreu. Et sa conclusion est très claire. La convergence vers un prix unique et stable qui équilibre tous les marchés ne se produit pas. Soit on tâtonne à l'infini dans le noir, équilibre instable, soit il existe plusieurs points d'équilibre stable et on ne dispose d'aucun moyen théorique d'en choisir un plutôt qu'un autre. Autrement dit, le compromis idéal est un mythe. La loi de l'offre et de la demande n'aboutit à rien d'autre qu'à une variation constante des prix. On tâtonne dans le noir à l'infini ou à un compromis aléatoirement sélectionné par la danse des prix parmi une multitude d'autres. Les incohérences de la théorie des réserves fractionnaires. Bien que pratique pour certains économistes, la théorie des réserves fractionnaires n'est pas cohérente avec certaines observations. Première incohérence, le taux de réserve obligatoire fixé par la Banque centrale devrait être l'outil principal de régulation de la quantité de monnaie. Quand ce taux est de 1%, les banques de dépôt devraient immédiatement créer 100 fois plus de monnaie scripturale qu'elles n'ont reçue de monnaie centrale. Or, en 2019, elle n'en avait créé que 4,6 fois plus en zone euro. Finalement, si la Banque centrale autorise les banques de dépôt à créer 100 fois plus de monnaie scripturale qu'elle ne fournit de monnaie centrale, il ne s'agit pas d'une obligation. Les banques peuvent créer jusqu'à 100 fois plus de monnaie scripturale qu'il n'y a de monnaie centrale, mais elles peuvent aussi en créer moins. Tout dépend de ce qu'elles souhaitent prêter et de ce que les agents économiques souhaitent emprunter. La conclusion principale de la théorie est alors très différente. La banque centrale ne contrôle plus la quantité de monnaie en circulation, mais fixe simplement le plafond que cette quantité peut atteindre. Deuxième incohérence, la Bank of England, BOE, Banque centrale du Royaume-Uni, ne fixe pas de taux de réserve obligatoire. Autrement dit, au Royaume-Uni, les banques commerciales sont théoriquement capables de créer autant de monnaie scripturale qu'elles le souhaitent. Il en va de même pour le Canada, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, la Suède et l'Australie, qui ne possèdent pas non plus de taux de réserve obligatoire. Cela démontre bien que ce taux n'est pas considéré par tout le monde comme très efficace pour contrôler la quantité de monnaie en circulation. Les banques centrales ont aujourd'hui tendance à s'appuyer sur d'autres formes de régulation pour contraindre la capacité des banques commerciales à créer de la monnaie, contrainte par le taux directeur ou, même si cela ne relève pas des banques centrales, par la proportion de capitaux propres dans le financement des activités bancaires. C'est l'idée qui se cache derrière les obscurs accords de Bâle 1, 2 et 3. Nous y reviendrons. Troisième et dernière incohérence, certaines banques centrales rejettent explicitement la théorie des réserves fractionnaires. Lasse d'être accusé par certains économistes d'être responsable de l'augmentation de la quantité de monnaie, donc de dette, qui a mené à la crise des subprimes de 2008, la Bank of England et la Bundesbank, banque centrale allemande, ont publié des articles démontrant que les banques centrales n'ont quasiment aucun contrôle sur la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Ce qui nous amène à la troisième théorie de la création monétaire. La théorie de la création monétaire ex nihilo. La troisième théorie de la monnaie est à la fois plus simple que celle des réserves fractionnaires et un chouïa plus contre-intuitive. Ici, plus de contrôle de la banque centrale. On considère que les banques ont leur propre planche à billets. Autrement dit, en plus de celle de la banque centrale, il y aurait autant de planches à billets que de banques de dépôt. Je vous entends déjà dire qu'il est de notoriété publique que seule la Banque centrale peut imprimer des billets de banque. Mais rappelez-vous que la grande majorité de la monnaie n'est pas physique. Vous payez par carte, par virement, voire par chèque, mais rarement en espèces. La théorie de la création monétaire ex nihilo nous explique que les banques de dépôt possèdent une planche à billets électronique. Comment ça marche ? Les banques de dépôt comme autant de planches à billets. Rappelez-vous, lorsque vous déposez un billet de 100 euros à la banque, vous lui prêtez cette somme. La banque est plus riche de 100 euros, mais, en contrepartie, elle vous fait la promesse de vous donner 100 euros si vous en faites la demande. Ainsi, le montant qui est inscrit sur votre compte est une promesse de la part d'une banque de dépôt de mise à disposition de billets imprimés par la banque centrale. Le seul moyen de faire une demande de monnaie centrale auprès d'une banque commerciale, le seul moyen de faire en sorte que la banque tienne la promesse inscrite sur votre compte, c'est de vous rendre au distributeur de billets et de retirer les 100 euros. La banque est alors forcée de supprimer la promesse qu'elle vous a faite, votre compte passe à zéro, et de faire sortir de ses coffres une liasse de billets dont la somme s'élève à 100 euros. Mais la plupart du temps, vous ne retirez pas la monnaie que la banque a promis de vous fournir. Vous vous contentez de payer par carte. Que se passe-t-il alors? Mettons que vous dépensiez vos 100 euros dans le magasin de Michel. La banque supprime la promesse qu'elle vous a faite, votre compte tombe à zéro, puis fait une promesse de mise à disposition de 100 euros à Michel. Tout se passe comme si la promesse changeait de destinataire. Ce que la banque vous devait, elle le doit désormais à Michel. Vous comprenez donc bien que, tant que les agents économiques paient par carte, par virement ou par chèque, il n'est pas nécessaire que la banque dispose de 100 euros dans ses coffres. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de déplacer les promesses d'un compte à l'autre. La confiance relative entre les banques. Oui, mais que se passe-t-il si Michel possède un compte dans une banque différente? Si vous avez déposé vos 100 euros à la BNP et que le compte de Michel est à la Société Générale, SG. Là, il y a un problème. La BNP a accepté de vous faire une promesse, les 100 euros sur votre compte, en échange d'un billet de 100 euros. La SG n'acceptera pas de faire une promesse à Michel sans obtenir une contrepartie. Et si cette contrepartie était une promesse de la part de la BNP? Après tout, puisque nous acceptons tous, entreprises, particuliers et États, des promesses bancaires comme l'équivalent de billets imprimés par la Banque centrale, pourquoi les banques ne pourraient-elles pas faire la même chose? Transfert quand il y a deux banques, si elles se faisaient confiance. 1. La promesse n'est plus associée à votre compte, celui-ci passe à zéro. 2. La promesse se déplace sur le compte de la SG, à la BNP. Le compte de la SG passe à 100 euros. 3. La SG utilise cette promesse faite par la BNP pour faire une promesse à Michel. Le compte de Michel passe à 100 euros. Rappelez-vous, les euros inscrits sur votre compte en banque ne vous appartiennent plus vraiment. La banque promet de les rendre disponibles sous forme de billets si vous en faites la demande. Mais que se passe-t-il si la banque fait faillite? En gros, la faillite signifie que l'entreprise en question cesse son activité, pour des raisons dont on parlera un peu plus tard. Une instance juridique en prend le contrôle, vend tout ce que cette entreprise possède et se sert du montant collecté pour rembourser les dettes et tenir les promesses. Allez-vous récupérer vos 100 euros à la suite de ce processus? Rien n'est moins sûr. Vous pourriez toucher à peu près n'importe quoi entre 0 et 100 euros. Tout dépend si les possessions de la banque ont été bien vendues ou non. La garantie des États. Les États garantissent, jusqu'à un certain point, aux épargnants qui font confiance aux banques de dépôt, les promesses faites par ces dernières. En Europe, ces promesses sont ainsi garanties tant que leur montant est inférieur à 100 000 euros. Autrement dit, en cas de faillite, si la vente des possessions de la banque ne permet pas de rendre disponibles les 100 euros que votre banque vous a promis, c'est l'État qui mettra la main à la poche pour vous les fournir. Et si votre compte affiche 150 000 euros au lieu de 100 euros, alors vous pouvez être sûr de récupérer 100 000 euros en cas de faillite. Mais les 50 000 euros supplémentaires sont à risque. Voilà pourquoi les banques ne se font pas de promesses entre elles. Parce que la faillite d'une concurrente n'est pas impossible et que le montant des transferts réalisés par les banques, à cause du nombre très important de clients qui utilisent leurs promesses comme de la monnaie, est largement supérieur aux 100 000 euros garantis par l'État. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une promesse faite par la BNP se déplace vers l'ASG? Qu'est-ce que l'ASG peut exiger de la part de la BNP pour que la promesse de 100 euros arrive bien sur le compte de Michel? Eh bien, la BNP doit mettre la main sur 100 euros en billets et l'envoyer à l'ASG. Transfert quand il y a deux banques, s'il fallait utiliser les billets. 1. Votre compte passe à zéro. La promesse qui vous avait été faite est supprimée. 2. Le billet de 100 euros est physiquement transféré vers l'ASG. 3. Une fois reçu, l'ASG crée une nouvelle promesse qu'elle associe au compte de Michel. Le compte de Michel passe à 100 euros. Les banques centrales à la rescousse. Ou alors, beaucoup plus pratique, la BNP doit transférer une promesse de mise à disposition de 100 euros faite par la Banque centrale depuis son compte vers celui de la Société Générale. Je vous vois froncer les sourcils. Pourtant, c'est logique. Si les banques de dépôt peuvent faire des promesses de mise à disposition de billets, la Banque centrale peut bien faire la même chose, non ? C'est d'autant plus simple pour elle de tenir ce genre de promesse puisque c'est elle qui contrôle la fameuse planche à billets physique. Les promesses faites par la Banque centrale sont en béton armé et les banques les acceptent sans discuter. Or, pour qu'une banque puisse vous faire une promesse de mise à disposition de billets, il vous faut un compte dans cette institution. Donc, les banques de dépôt ont des comptes à la Banque centrale et se font des transferts de promesses faites par cette dernière, plutôt que des transferts de billets. Transfert quand il y a deux banques, ce qui se passe réellement. 1. La BNP se débrouille pour que la Banque centrale lui fasse une promesse de 100 euros. Nous verrons comment un peu plus tard. Le compte de la BNP à la Banque centrale passe à 100 euros. 2. Votre compte passe à zéro. 3. Le compte de la BNP à la Banque centrale passe à zéro. 4. La promesse de la Banque centrale est désormais associée au compte de la SG. Le compte de la SG à la Banque centrale passe à 100 euros. 5. La SG crée une nouvelle promesse de 100 euros qu'elle associe au compte de Michel. Le compte de Michel passe à 100 euros. Récapitulons. Les montants inscrits sur nos comptes en banque sont des promesses de mise à disposition de billets, imprimés par la Banque centrale uniquement. Mais ces billets ne sont nécessaires que lorsque nous nous rendons au distributeur de billets. Une forme de monnaie centrale est également nécessaire lorsque nous effectuons des paiements depuis un compte situé dans une banque A vers un compte situé dans une banque B, parce que les banques évitent de se faire des promesses entre elles. Mais dans ce cas, il peut simplement s'agir de promesses faites par la Banque centrale, donc de la monnaie électronique qui passe de compte en compte à la Banque centrale. En résumé, la monnaie de la Banque centrale est utile pour permettre les paiements en espèces et pour permettre la circulation des promesses faites par les banques de dépôt.